Il est 8h. Belle journée ensoleillée à tous sur Europe 1. La suite de la matinale, Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous dans la matinale week-end. Merci de nous rejoindre dans un instant. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin Alexandra Goujon, maître de conférence à l'université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité marqués, bien sûr, par cette journée d'élection en France. Premier tour de l'élection présidentielle. Près de 49 millions de Français sont appelés à voter. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir à l'instant. Il est 8h, donc vous pouvez commencer à aller voter. 12 candidats en lice pour ce premier tour, une inconnue de la participation. Certains électeurs d'outre-mer et des Français de l'étranger ont déjà commencé à voter. Au 46e jour de guerre en Ukraine, tout l'est du pays redoute une attaque massive et imminente. Les civils peinent à fuir en attendant l'offensive. Le président Volodymyr Zelensky fait de la ville martyre de Mariupol un symbole de la résistance ukrainienne. Jean-Pierre Elkabbach en parlera avec son invité dans un instant. Et pendant que l'est de l'Ukraine redoute une offensive russe, Boris Johnson a effectué une visite surprise hier à Kiev, où il s'était entretenu avec le président ukrainien, le premier ministre britannique et le premier dirigeant d'un pays du G7 à se rendre en Ukraine depuis le début de la guerre. Tout de suite, l'interview Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous. Et vous, bienvenue Alexandra Goujon, vous êtes très familière de l'Ukraine et chaque jour, je peux dire que vous êtes l'amie des Ukrainiens qui sont en guerre depuis 8 années, depuis 2014. Bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour. Malgré les bombes, malgré les décombres et les morts, les Ukrainiens, vos amis, ne se laissent pas vaincre. D'où viennent d'abord ce courage et cette résistance dans leur histoire et j'ai envie de dire leur orgueil national?
Je pense que depuis l'Empire russe, les Ukrainiens, en fait, cherchent à exprimer leur culture, hein, cherchent à créer un État, ce qui a été le cas notamment au début du XXe siècle, avec une courte indépendance. Et puis, il y a des moments de traumatisme, hein, la famine ukrainienne de 1932-1933, et cette indépendance qui existe depuis 1980.
Depuis le 24 août 91. Et là, ils défendent avec beaucoup de fierté leur drapeau, avec deux couleurs, le jaune et le bleu. Pourquoi ? Ces deux couleurs, elles ont un sens.
Oui, tout à fait. En fait, elles représentent, le jaune représente les blés et le bleu, le ciel ukrainien.
Oui. Alors, Poutine, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, considère depuis toujours les Ukrainiens comme des paysans. Il veut les soumettre, à la fois briser l'État et la nation. L'Ukraine, d'après lui, lui appartient. Quand il dit « on ira jusqu'au bout de nos objectifs et qu'on les réussira », qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le prochain objectif, c'est plein feu sur le Donbass et les ports du sud de l'Ukraine?
Au départ, de ce qu'on a compris, l'objectif, c'était quand même Kiev, hein, c'est-à-dire le centre du pouvoir politique. Et cet objectif, effectivement, semble avoir bougé. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce que disent les autorités russes, hein, on se focalise sur le Donbass. Mais je crois qu'en fait, et c'est le cas depuis 2014, l'idée c'est de briser l'État ukrainien, de le déstabiliser en profondeur.
Oui, pour s'en débarrasser.
Oui,
pour
parce
l'intégrer
qu'en fait,
dans un ensemble.
Tout à fait. En fait, le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il a voulu absolument ramener à lui, hein, l'Ukraine dans ce qu'il appelle le monde russe. Et n'y arrivant pas, en fait, eh bien, il cherche à briser à la fois l'État ukrainien et la capacité du peuple ukrainien, en fait, à se gouverner lui-même.
Vous avez vu qu'il réorganise l'armée russe avec un nouveau général, Dvornikov, qui vient presque de Syrie. Et il écarte les deux généraux qui étaient avec lui et qui étaient pourtant des proches. Chaque année, le 9 mai, la Russie, vous le savez aussi bien que moi, commémore avec beaucoup d'éclat la victoire de l'Union soviétique en 1945 contre le Reich d'Hitler. En 2022, le 9 mai, c'est dans un mois. Poutine pense qu'il aura fini avec l'Ukraine dans un mois. Est-ce qu'il rêve ? Est-ce que c'est possible ?
Tout dépend de l'objectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il reste à peu près un quart du Donbass à récupérer. Et donc, c'est sans doute cet objectif qu'il va chercher. La question, c'est de savoir s'il va s'arrêter là. Est-ce que ce sera une demi-mesure acceptable, éventuellement, pour le 9 mai? Et puis, de toute façon, cet objectif n'est pas encore atteint. Mais, il reste encore de lourds combats à mener.
Oui, mais vous avez bien dit que Kiev, il y a presque renoncé momentanément, ou il y a renoncé parce qu'il y a une résistance et que son armée n'est peut-être pas capable d'y aller et de vaincre cette ville, cette capitale.
Oui, tout à fait. Et on peut dire aussi que l'objectif n'était peut-être pas forcément strictement militaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette invasion, elle provoque aussi une déstabilisation du pouvoir en place. Et on a vu que Zelensky, eh bien non, n'avait pas fui Kiev. Et donc, peut-être que là, il était beaucoup plus difficile de prendre cette capitale.
De 1932, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1945, Staline et Hitler, à tour de rôle, on a envie de le dire, ont martyrisé l'Ukraine, les Pays-Baltes, la Biélorussie, que vous connaissez bien. Il y a eu 1 million de Juifs exterminés. Il y a eu aussi la Shoah par balle dont a parlé le père Desbois, notre ami. Combien il y a eu de victimes au total et des civils pendant cette période tragique.
En fait, il y a eu plusieurs millions de victimes. Il y a notamment beaucoup de soldats de l'armée rouge qui sont morts. Je rappellerai aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a le phénomène aussi qu'on appelle des villages brûlés, hein, de villages qui ont été brûlés. Ça, c'était plutôt après l'extermination des Juifs et notamment au moment de la retraite des Allemands.
Oui, le grand historien américain que vous connaissez, Timothy Snyder, vient aujourd'hui de dénoncer le génocide. Il y a quelque temps, il expliquait le supplice, la famine sur ce qu'il appelle les terres de sang. Il en fait l'événement central et durable de l'histoire de l'Europe. Timothy Snyder nous l'avait raconté dans un bibliothèque Médicis il y a quelques années. On va l'écouter, un extrait.
Staline des goulags, oui. Des camps de travail,
oui, oui, oui.
Il écrase l'Ukraine, et vous dites bien, Timothy Snyder, que sa méthode, c'est un mot qui va revenir pour chacun des deux camps d'ailleurs, l'affamement. Combien de millions d'affamés morts dans l'Ukraine ?
Dans l'Ukraine, à peu près 3 millions. 3 millions. Hmm. Dans l'Ukraine, les orphelins, c'était les enfants qui ont survécu à... Les enfants des parents qui
les
ne voulaient
pas manger.
Oui,
votre phrase, c'est un orphelin était un enfant que ses parents n'avaient pas mangé. Et vous dites, des mères et des pères tuèrent leurs enfants et les mangeaient. Mais d'autres parents invitaient leurs enfants à se nourrir de leur corps s'ils mouraient. Ce qui est tout à fait horrible.
Staline a collectivisé et il a pensé, alors on va utiliser la collectivisation contre les villes soviétiques. Alors, pas contre les Ukrainiens, mais contre les villes soviétiques, contre les Juifs. Et pour nous, on va organiser famine, pour une deuxième fois, vous avez raison, mais contre l'Union soviétique et pour nous. Mmh. Les gens en France, les gens de la gauche, ont pensé qu'il n'y a que deux possibilités, le fascisme et le communisme. Et on a compris que la démocratie ne se défend pas très fort. Et c'est la vérité. Alors, on a pensé que les soviétiques sont les secours pour la démocratie. C'était faux, mais quand l'alternative semble être les nazis, c'est compréhensible. Mais maintenant, il ne faut plus orienter nos pensées selon les nécessités politiques de cette époque. Il faut comprendre ce qui s'est passé
avec
chez les soviétiques.
Avec la distance de l'histoire.
C'est une histoire pour nous tous.
Oui, oui. Mais pourquoi ça demeure ? Est-ce que ça veut dire qu'Hitler n'est pas tout à fait mort ? Dans certains esprits.
On dit qu'on a compris cette histoire. On n'a pas compris cette histoire. Les gens d'aujourd'hui sont très pareils aux Allemands des années 30. La différence n'est pas très grande.
Ah bon?
Ah bon. La plus importante différence entre nous et les gens des années 30, c'est la nourriture. Pour nous, la nourriture est pas chère et disponible.
Si elle devenait chère et indisponible,
voilà.
Qu'est-ce qui se passerait ?
Voilà.
La famine.
Voilà.
Les camps.
Voilà, la famine et les réactions.
Camps contre l'étranger.
Et les réactions politiques.
Voilà, ce cannibalisme et cette barbarie que Timothy Snyder dénonce ne s'oublie pas. Je pense que Zelensky et son peuple le savent et s'en souviennent. Ce week-end, des dirigeants européens, Ursula von der Leyen et surtout Boris Johnson, qu'on voit beaucoup à l'image, ont défilé à Kiev. Bien sûr, pour livrer des armes, j'ai vu qu'ils livraient des missiles contre les navires, des chars, de l'argent, des drones, mais aussi pour la photo et la vidéo avec Zelensky, non ?
Oui, bien sûr, mais c'est extrêmement important aussi de montrer que le pouvoir politique, finalement, qu'on a cru peut-être vaciller est en place aussi. Et cette promenade en fait dans Kiev entre Boris Johnson et Zelensky, c'est aussi montrer que Kiev continue à revivre. Et d'ailleurs, il y avait des passants qui interrogeaient les chefs d'État. Donc c'est aussi pour ça. C'est le soutien occidental, mais c'est aussi montrer que Kiev continue de revivre.
C'est très spectaculaire et symbolique. Et j'ai envie de dire qu'il doit faire des jaloux, Monsieur Johnson. Dans votre livre, vous décrivez l'Ukraine d'avant-guerre. Vous dites que c'est un pays qui était divisé, qui était très corrompu, avec trois groupes d'oligarques. L'un d'eux qui s'appelle Viktor Pinchuk, et vous dites pétrole, finance, médias, et où était bien vu à Paris. Vous savez pourquoi ?
Non, je... Enfin... Les oligarques, il n'y a pas que lui, hein, je
non,
pense.
Non, mais non, bien sûr,
il y a
pas que lui.
Il y a beaucoup d'oligarques et il y a des oligarques russes aussi qui possèdent un certain nombre de biens
vous les avez
en France,
cités.
En fait.
Et pourquoi je cite Pinchuk ? Parce qu'il a offert un don à la France, 1 million d'euros, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. L'agression russe va donc reprendre dans les prochaines heures, sans aucun doute, avec le nouveau général. L'Amérique et l'Europe, on le voit, livrent des armes. Jusqu'où il faut aller ? Quand un Poutine dit qu'il y a la menace du nucléaire.
C'est toute la question. C'est-à-dire que, c'est ce que dit d'ailleurs Volodymyr Zelensky, et dit on voit bien que vous continuez, vous à l'Ouest, à avoir peur, de la Russie.
Mais nous avons peur, même si elle a la menace de l'emploi.
C'est la question de la dissuasion nucléaire, je ne sais pas. Pour l'instant, en tous les cas, effectivement, Zelensky a bien compris que les Occidentaux n'interviendraient pas eux-mêmes militairement.
Mais
c'est pour
raison,
ça qu'ils demandent les
est-ce
armes.
Est-ce qu'ils ont raison, vous qui aimez tellement l'Ukraine ?
Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne suis pas décideur politique.
Oui, mais si vous l'étiez, qu'est-ce que vous feriez ?
Je ne sais
si
pas.
Vous conseillez un patron
politique. D'abord, je ne serais pas toute seule,
politique.
J'imagine. Donc, voilà, on voit bien aussi qu'il y a une concertation entre les Occidentaux et que je pense que cette décision, si elle était prise, elle serait prise sans doute dans le cadre d'une coalition.
En même temps, hier, Zelensky a répété que l'Ukraine est toujours prête à des pourparlers avec la Russie pour sortir de ce cycle de 8 années de violence. Est-ce qu'il a la liberté de céder 1 pouce du territoire ukrainien ?
C'est la deuxième question très difficile des négociations. Tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, Zelensky a demandé un tête-à-tête avec Poutine depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé lorsqu'il est arrivé au pouvoir.
Et il croit qu'il va l'obtenir ?
Je ne sais pas, il le demande parce qu'il pense qu'il veut montrer en tous les cas sa bonne volonté. Et je crois qu'il le disait dans une interview encore hier, où il disait que l'objectif, c'est d'arrêter la guerre. Donc après, on verra le type de concession. On sait qu'aujourd'hui, ce que demande Zelensky, c'est l'arrêt de la guerre avec des garanties de sécurité. Garanties de sécurité qui avaient été fournies par le fameux mémorandum de Budapest en 1994, par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Et la Russie, qui a signé un papier disant qu'elle elle garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Quand les Ukrainiens se battent à Kiev, Kherson, Kharkiv, Mariupol, la ville symbole, et Odessa peut-être, ils se battent évidemment pour leur pays, parce qu'ils se battent aussi pour l'Europe et l'Amérique démocratique, pour les libertés, les nôtres.
Ouais, je pense que oui, parce que c'était déjà le message au moment de la révolution de Maïdan, en fait. On est dans le prolongement de cette révolution qui montre l'attachement, on va dire, effectivement, aux valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le combat, c'est ce que disent les Ukrainiens, c'est un combat pour la souveraineté, pour l'indépendance, mais aussi pour la liberté. Ceci dit, l'indépendance et la liberté vont de pair.
C'est un beau couple. Mais est-ce qu'on n'idéalise pas trop les Ukrainiens aujourd'hui ?
C'est un peuple aussi hétérogène politiquement, socialement, culturellement que beaucoup d'autres peuples. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on est du côté des Ukrainiens et c'est normal parce qu'ils sont menacés. Ils sont menacés en tant qu'État et en tant que nation. Mais voilà, il y a des travers dans la société ukrainienne.
Mais parce qu'on pense aussi qu'ils sont nos voisins, qu'ils ne sont pas loin et que ça peut arriver à quelques pays voisins également de l'Ukraine. Le titre de votre livre que nous avons montré, c'est « De l'indépendance à la guerre ». Quand et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe de la guerre à l'indépendance ? Qu'est-ce qu'il faut ?
Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que la Russie arrête d'avoir des prétentions territoriales, politiques, économiques et autres sur l'Ukraine. La Russie est le plus grand pays du monde. Pourquoi a-t-elle absolument besoin de cette Ukraine pour exister ?
Mais elle a besoin d'une Ukraine aussi neutre et pas sous la domination de qui que ce soit et avec peut-être ce qu'elle considère comme des menaces pour son propre territoire. Mais ça, c'est autre chose. Merci d'être venu. Alexandra Goujon. Et je vous souhaite une bonne journée. C'est une journée qui est électorale. Les votants ont commencé à se rendre dans les urnes, mettre leur bulletin dans les urnes. Et il y aura une soirée Europe 1 CNews qui va commencer à 19h. Je suis sûr que vous la regarderez. Bonne journée.
Et qu'on va suivre, évidemment. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Alcabache. Merci à vous, Alexandra Goujon. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche particulier, dimanche 10 avril, jour de vote, avec Chana Lousteau.
Le premier tour de l'élection présidentielle, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a maintenant 15 minutes. Près de 49 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 12 candidats en lice. Et Édouard Philippe a déjà glissé son bulletin dans l'urne. L'ancien Premier ministre a voté dans sa ville du Havre. En France, 6000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin après le passage de la tempête Diego. La plupart se situent en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Un important dispositif a été mis en place. Plus de 1000 techniciens travaillent actuellement sur le terrain. Un retour à la normale est prévu dans la journée. Trois hommes mis en examen dans l'enquête sur l'incendie criminel à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Le drame avait fait 8 morts en février dernier, dont un bébé et un enfant de 2 ans. L'un des suspects a été placé en détention provisoire pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Les deux autres sont soupçonnés de complicité. La 31e journée de Ligue 1 et les Rennais qui se sont imposés hier sur la pelouse de Reims. Les Bretons se sont fait peur. Ils menaient 3-0 quand les Rémois sont revenus 3-2 dans la dernière demi-heure de jeu. Un succès qui permet à Rennes de s'emparer de la deuxième place du classement devant Marseille.
Votre matinale week-end continue dans un instant avec face à Guillaume Bigot ce matin, Marc Baudrier. Nous parlerons bien sûr de ce premier tour de l'élection présidentielle. Toujours un moment important dans notre pays, même si l'abstention fait partie des grandes inconnues du scrutin. Et puis nous ferons le point également sur la guerre en Ukraine au 46e jour, alors que l'Est du pays s'attend à une offensive majeure des Russes. À tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Et presque 21 minutes. Merci de nous rejoindre dans la matinale week-end avec face à Guillaume ce matin. Bonjour d'abord Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle.
Et face à vous, c'est Marc Baudrier. Bonjour Marc.
Bonjour
Isabelle. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Ça y est, nous sommes le 10 avril. On y est, premier tour de l'élection présidentielle. Ça fait donc 21 minutes très précisément que les bureaux de vote ont ouvert un peu partout en France. Ce sera évidemment notre fil rouge tout au long de la journée avec une édition spéciale dès la fin d'après-midi. Midi à suivre conjointement sur CNews et Europe 1, 17h, Romain Desarbres, suivi de Laurence Ferrari à partir de 19h, Sonia Mabrouk prendra le relais à 22h, suivi de Julien Pasquet à minuit. En Outre-mer, le vote a déjà commencé pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Polynésie aussi a commencé à voter. Certains Français de l'étranger sont en avance, comme à Montréal ou aux États-Unis. Ceux de Shanghai, hélas, sont privés de vote pour cause de confinement. C'est un cas de force majeure. Nous allons suivre évidemment ensemble tout au long de la matinale le week-end les votes des candidats et des personnalités politiques dans les différents bureaux de vote. On va rejoindre d'abord dans le 15e arrondissement de Paris, Sybille Delettre et Florent Ferraud. Sybille, est-ce qu'il y a déjà un petit peu de monde dans cette mairie du 15e arrondissement ?
Eh bien oui, écoutez, depuis l'ouverture du bureau, il y avait même des personnes qui attendaient l'ouverture. On peut dire qu'il y a eu 25-30 personnes qui sont venues dans ce bureau ici à la mairie du 15e arrondissement pour voter. Alors vous le voyez, chaque personne qui vient voter arrive ici. Il y a à disposition du gel hydroalcoolique et des masques pour ceux qui veulent se protéger. Et ici, première étape, les assesseurs vérifient votre carte d'électeur. Si vous l'avez amené, elle n'est pas obligatoire, mais surtout votre pièce d'identité pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. On vous donne ensuite l'enveloppe qui vous permettra de voter. Vous pouvez ensuite prendre un bulletin de vote, les différents bulletins. Il faut en prendre au moins deux et ensuite direction l'isoloir. Ici, pour glisser le bulletin que vous avez choisi dans l'urne, vous le voyez, il y a des personnes qui sont en train de voter. Et ensuite, vous pouvez vous retrouver sur ce bureau où vous allez pouvoir glisser votre bulletin dans l'urne et signer pour attester du fait que vous avez bien voté. Aujourd'hui, il y a aussi un gel hydroalcoolique qui est déposé à la sortie pour ceux qui souhaiteraient se laver les mains après avoir voté. Ce bureau a donc ouvert à 8h et il fermera ici à 20h car nous sommes dans une grande ville à Paris.
Merci beaucoup, Sybille, en direct de cette mairie du 15e arrondissement, avec Florent Ferraud, Guillaume Bigot et Marc Baudrier. Vous suivez évidemment régulièrement, attentivement, la vie politique. Bon, à titre personnel, Guillaume, comment est-ce que ça se passe pour vous, un dimanche d'élection? Non, mais quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un moment fort dans notre pays, d'une manière générale, 11e élection présidentielle.
Un dimanche de campagne. Écoutez, j'ai un regard un peu biaisé, un peu un biais professionnel. Disons qu'après mon devoir professionnel ici, j'irai accomplir mon devoir civique. Mais ce devoir, je ne le sens pas vraiment, à titre personnel, comme un devoir, c'est-à-dire comme une obligation, comme quelque chose. Je pense que c'est un droit qu'on doit exercer. On présente souvent l'élection comme justement une sorte de contrainte. Et on peut aussi se dire, parce qu'on est sur 47,8 millions, donc on a l'impression que sa voix est dissoute. Mais en fait, je pense que c'est le peuple, collectivement, qui, une fois tous les 5 ans, réalise, et on peut tous le réaliser comme citoyens, nous sommes les dirigeants de la démocratie. En fait, il n'y a pas d'autres dirigeants de la démocratie. C'est nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir est au bout du fusil, disait Mao Tse-tung, sauf en démocratie où il est au bout du bulletin de vote, et donc oui, dans l'urne. Voilà, donc ça c'est fondamental. Je pense qu'il faut éprouver ça comme le pouvoir. Nous, le peuple français, nous avons le pouvoir. C'est nous qui sommes les dirigeants de notre propre démocratie.
C'est un dimanche de pouvoir, donc, Marc Baudrier, comme le dit Guillaume Bigot.
Écoutez, je ne sais pas si c'est un... Oui, il a raison, Guillaume, mais c'est surtout un dimanche un petit peu particulier, ces dimanches d'élection, parce que, si vous voulez, il y a une espèce de flottement. On flotte entre la crainte et l'espoir toute la journée dans ces journée d'élection. La crainte, parce que bon, on pense à son pays et on redoute que certains schémas peut-être apparaissent le soir. C'est le cas, je pense, pour tous ceux qui s'intéressent à la vie politique. Et puis l'espoir, parce qu'on espère aussi de certaines configurations. Et donc, ça donne un climat assez particulier où dans lequel le temps est un petit peu suspendu. Ouais. Et voilà, jusqu'à 20h.
Hein, oui. Ce sera effectivement l'heure des premières estimations. On suivra évidemment, mais un temps suspendu donc pour vous dans ces quelques heures en attendant le début des résultats. Parmi les grands inconnus, on l'a souvent évoqué ici à Guillaume Bigot, mais bien sûr il y a cette question de la participation, avec notamment la météo. Il y a beaucoup d'enquêtes, d'études scientifiques qui ont montré que parfois la météo pouvait influer, notamment les dimanches ensoleillés, comme c'est le cas aujourd'hui, où les gens auraient peut-être plutôt tendance à aller se balader plutôt qu'à aller dans l'isoloir.
Très difficile, parce que l'argument est très réversible. Autant sous la Révolution française, il y avait un espèce de consensus pour dire que la pluie et le mauvais temps étaient contre-révolutionnaires. Quand il y avait des grandes journées d'insurrection, quand il pleuvait, quand il grêlait, etc., les gens poussaient parfois un ouf de soulagement quand ils avaient peur d'être chassés par l'émeute. Autant en matière électorale, c'est difficile, parce que vous pouvez dire c'est une très belle journée, donc vous allez plutôt aller à la pêche, vous allez plutôt aller en forêt, ou c'est une très belle journée, donc vous avez plutôt tendance à sortir de chez vous. Il me semble que, si vous voulez, les instituts de sondage, il y a une courbe d'apprentissage, donc scrutin après scrutin, les sondeurs essayent, en plus on est à l'heure de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Donc tout ça se sophistique, en quelque sorte se perfectionne, mais ils ne font, comme les marchés financiers d'ailleurs, que brasser des données du passé. Donc, à partir des données du passé, ils essaient d'extrapoler l'avenir. Mais en réalité, il y a quelque chose de... Voilà, le futur n'existe pas encore. C'est ce soir à 20h, ça va se dérouler aujourd'hui. Donc, on ne peut pas saisir ce qui n'existe pas encore. Ça, c'est toute la folie du monde de l'intelligence artificielle qui consiste à dire « Mais le futur va ressembler au passé. » Parce que le passé, on en a une appréhension numérique tellement forte, on vous cartographie tellement les uns les autres, qu'on sait exactement ce que vous allez faire. Mais en fait, ça, c'est un fantasme hollywoodien. Ce n'est pas du tout la réalité. Et ça aussi, c'est important. C'est important de montrer que ce ne sont pas les machines qui ont le pouvoir, ce sont les êtres humains. Moi, j'ai déjà souvent cité cette phrase, je la recite, elle me plaît beaucoup. Je pense qu'elle est profondément vraie. C'est Trotsky qui dit, pourtant ce n'est pas un démocrate, il dit, si vous ne vous intéressez pas à la politique,
c'est la politique qui s'intéressera à vous.
Exactement. Donc là, franchement, ne pas voter, s'abstenir, rester chez soi, pas aller à la pêche, finalement, c'est décider que les autres vont décider à votre place. Et ça, c'est vraiment très, très important. Bon, j'arrête ici la propagande civique.
Quel plaidoyer civique en faveur de la
participation. Non,
la
j'arrête ici la propagande civique. Je dis simplement que c'est difficile. Je pense que, pour revenir sur cette analyse de ce qu'ont fait les instituts de sondage ont assisté, disons, à un tiercé abstentionniste. Les 3 derniers scrutins, l'abstention était record. L'abstention était record en raison du contexte sanitaire. L'abstention était record parce que les élections n'étaient pas des élections fascinantes ou passionnantes de par leur enjeu. D'accord. Et donc, on sait que la présidentielle, c'est très différent. C'est vraiment là où le peuple a vraiment le pouvoir. Et on doit remercier le général de Gaulle de nous avoir, d'une certaine façon, rendu. Ça a été d'ailleurs une opposition, une bataille très très forte contre les oligarques de l'époque, la classe dirigeante de l'époque. Il y a eu un bras de fer terrible, y compris chez ses propres, vis-à-vis de ses propres partisans, mais ça y est, depuis 62. Donc en général, c'est l'élection où il y a, un, le moins d'abstention, et deux, je répète, c'est très difficile de mesurer ou d'estimer l'abstention, et elle est estimée à partir de ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant, ce sont des élections qui n'étaient ni les présidentielles, et des élections qui étaient un peu covidées de leur substance.
Marc Baudrier, il y a des initiatives pour lutter contre l'abstention. Une station de ski en Haute-Savoie qui offre un forfait à 1 euro en échange de la présentation de la carte d'électeur. Dans le Lot-et-Garonne, on propose un vote contre un repas et un verre de vin rouge. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Est-ce que c'est plutôt l'incitation plutôt que la contrainte, finalement?
Oui, ça paraît très gentillet. Ça me paraît gadget. Ça me paraît quand même très dérisoire, si vous voulez. Et en arriver là, pour arriver à faire voter les gens, c'est quand même, ça en dit long quand même sur l'état de notre démocratie. Et de fait, quand on regarde les tranches d'âge qui s'abstiennent et qu'on s'aperçoit que plus on est jeune et plus on s'abstient, en gros, et que chez les 18-24 ans, sur un sondage récent, Le Figaro, Doxa, on voit qu'il y a 40% de cette tranche d'âge qui s'abstient. On a des soucis à se faire, et je ne suis pas sûr que le forfait, ça suffise à renverser cette situation qui fait qu'il y a toute une partie très importante des Français, les jeunes, mais aussi les classes plutôt défavorisées, qui se considèrent, si vous voulez, non concernés par ce scrutin qui est pourtant majeur dans la vie démocratique française, comme Guillaume l'a dit, et qui est la clé de voûte de nos institutions. Donc c'est quand même un vrai sujet. On verra ce soir quels sont les taux, mais on s'attend à des taux d'abstention très forts. Cette abstention, d'ailleurs, il faut le signaler, Guillaume ne l'a pas dit, elle a monté tout de même sur les élections présidentielles depuis le départ, avec un pic en 2002. Globalement, elle est un peu redescendue, mais elle continue à monter sur la tendance. C'est vraiment un phénomène très lourd.
Et on verra effectivement ce que donne ce taux de participation tout au long de la journée. Dans un instant, on va parler de la situation en Ukraine au 46e jour de guerre. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité, les 8h30, avec vous, Chana Lousteau.
Le premier tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a maintenant 30 minutes. Près de 49 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 12 candidats en lice. Et dès hier, certains Français ont pu commencer à voter. C'est le cas en Outre-mer, mais également à l'étranger. Plus de 10 milliards d'euros pour soutenir le peuple ukrainien. C'est le résultat d'une collecte de fonds internationale lancée par l'ONG Global Citizen, une initiative soutenue par l'Union européenne et le Premier ministre canadien. Les fonds seront reversés aux déplacés et aux réfugiés ukrainiens. Les urgences de l'hôpital d'Orléans sous haute tension. 100% des infirmiers et 80% des aides-soignants sont en arrêt maladie. Et depuis vendredi, les médecins sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le mauvais traitement des patients. Conséquence, seules les urgences vitales sont acceptées. La 31e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui se rapprochent un peu plus du titre. Les Parisiens ont largement dominé Clermont hier. Un triplé de Neymar, un autre de Mbappé. Score final 6-1. Les Parisiens, leaders du classement, comptent 15 points d'avance sur Rennes et ne sont plus qu'à 3 victoires du titre.
Merci Chana. L'angoisse pour des millions de personnes dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe s'apprête à lancer une nouvelle offensive avec en perspective la volonté de conquérir totalement le Donbass. Certaines villes pilonnées depuis des semaines sont à bout de souffle. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, Nicolas Sarkozy qui est actuellement à Paris dans le 16e arrondissement et qui s'apprête à voter. Ça aussi, ça fait partie des particularités de l'élection présidentielle quand on voit bien sûr les candidats, mais aussi des différentes personnalités politiques s'apprêter à faire leur devoir de citoyen, comme tout un chacun finalement, Guillaume Bigot.
Un ancien président de la République n'a pas plus de pouvoir ou moins de pouvoir que vous et moi.
Oui, et ça rejoint précisément ce que vous disiez, où c'est une journée extrêmement importante. Nicolas Sarkozy qui est en train de prendre différents bulletins, puisque c'est aussi la règle, pour des raisons de confidentialité. Il faut au moins prendre 2 bulletins de vote.
C'est
ça la règle. Et puis ensuite, comme tout un chacun, comme tous les citoyens, Nicolas Sarkozy se dirige vers l'isoloir où il va prendre le temps. Toujours un moment assez curieux, évidemment. voilà, on se dérobe au regard des autres pour pouvoir, en toute intimité, avec ses convictions profondes, bien faire son choix de candidat. Je rappelle, 12 candidats à l'élection présidentielle pour ce premier tour, en ce 10 avril. Et puis, voilà, le temps de mettre le bulletin dans l'enveloppe. Et on attend de voir la sortie de Nicolas Sarkozy. Voilà, avec pas mal de monde autour de lui, et qui, comme tous les Français, c'est ce que vous disiez, Guillaume, à l'instant, eh bien, voilà, fait son devoir de citoyen. Ça y est, c'est terminé. Ensuite, on glisse le bulletin. Je vous laisse commenter, hein. Tiens, un petit peu, Guillaume.
Oui, il y a des listes électorales, et donc il faut qu'on vérifie que le citoyen est bien inscrit sur la liste, et ensuite, il y a la formule consacrée à voter contre une signature.
Et on ne s'inquiète pas non plus, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour renouveler les pièces d'identité en ce moment, oui, et les passeports. C'est un vrai sujet. Mais exactement, on peut voter avec différentes pièces d'identité, même quand on a une carte d'identité en France, même si elle est périmée, on peut voter. On peut même voter avec des cartes vitales, me semble-t-il, avec des permis de conduire.
Pas induire nos concitoyens
en erreur, mais en tout cas, vraiment, ça vaut le coup de regarder. Carte vitale, ça marche aussi, me confirme Charlotte Gorzala en régie. Et donc voilà, ensuite on peut s'apprêter à voter, mais en tout cas...
Mais c'est un sujet, enfin le sujet en creux, c'est le sujet de la fraude électorale en réalité. Et la France est l'un des pays dans lequel il y a le moins de fraude électorale au monde. Il y a une vieille tradition maintenant qui est bien installée. Et finalement, on est à l'heure électronique, vous voyez, le contrôle humain, le contrôle papier des choses, des techniques qui peuvent paraître assez... un peu archaïque finalement par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays où il y a des systèmes de vote électronique. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Il y a une élection qui a été extrêmement controversée, c'est celle de George Bush dans les années 2000, le fils Bush, George W. Bush, qui a eu obligé d'avoir un recomptage des votes, etc., avec un vote électronique. Donc, vous voyez, on voit que tout de même...
Celle
de Trump également. La vitesse de dépouillement, la vitesse de transmission des résultats, la fiabilité, le fait que des opposants politiques soient présents. Alors, c'est aussi le cas aux États-Unis, mais néanmoins, les votes électroniques rendent la fraude quand même beaucoup plus facile. Alors, il y a aussi une autre question, c'est celle des procurations. En fait, les procurations, il va y en avoir pas mal, parce qu'on est en période de vacances. Mais néanmoins, c'est un système plutôt très bien contrôlé en France.
L'humain au cœur de la vie politique et de la vie démocratique. Et ça y est, donc Nicolas Sarkozy, qui vient de voter et qui a signé. On passe, si vous voulez bien, à la situation en Ukraine. Je vous le disais, c'est l'angoisse pour des millions de personnes dans l'Est. On va faire le point à Mariupol ou à Kharkiv avec Mathieu Rio et on en débat juste après.
Un char russe au milieu des ruines de Mariupol. La ville, en partie occupée par les troupes de Moscou, est toujours la cible de bombardements. Dans ce quartier résidentiel ravagé, on entend encore au loin des tirs. Cet habitant est un miraculé. Deux obus ont frappé autour de lui, mais aucun n'a explosé à l'atterrissage.
C'est un événement très improbable. Lorsque deux obus tombent au même endroit, n'importe lequel aurait pu me tuer, aucun des deux n'a explosé. Ma mère m'a dit que je suis né de nouveau ce jour-là.
Dans cette ville rasée à 90%, les civils ont fait leurs bagages, prêts à fuir, mais les couloirs humanitaires ont été interrompus. Dans une autre ville de l'Est, la situation est dramatique à Kharkiv. Cet immeuble a été touché, deux personnes ont été blessées.
J'ai été touchée à la tête et l'onde de choc m'a projetée en arrière. Les escaliers se sont effondrés, les fenêtres et les portes ont été renversées. Miraculeusement, j'ai survécu.
Pas moins de 50 attaques ont été recensées hier à Kharkiv. Comme dans le Donbass, les autorités ukrainiennes appellent les civils à fuir la région. L'Ukraine se prépare à un assaut imminent des Russes dans tout l'est du pays.
Vous l'avez vu donc ravagé par les bombardements russes. Mariupol est devenue ces dernières semaines une ville martyre. C'est un point stratégique, on l'a compris, pour les Russes, mais également pour Volodymyr Zelensky, qu'on écoute.
Mariupol est, vous le savez, le cœur de cette guerre aujourd'hui. Ils se battent et nous nous battons. Nous sommes forts, mais s'ils cessent de se battre, nous serons dans une position beaucoup plus faible. Plus notre position à Mariupol sera forte, plus notre position dans l'est du pays le sera également. Plus l'opposition sera forte dans l'opération conjointe des forces et ils seront plus forts, la table des négociations sera plus serrée et nous aurons des avantages dans le dialogue avec la Fédération de Russie.
Guillaume Bigot, est-ce qu'elle est juste l'analyse du président ukrainien sur la situation de Mariupol ?
Oui et non. Elle est juste parce que Mariupol et Odessa, notamment, sont les principaux ports de l'Ukraine. Le drapeau de l'Ukraine, c'est du bleu et de l'or. Comme tout le monde l'a vu maintenant, on connaît bien ce drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la mer et le blé, en quelque sorte. La principale richesse de ce pays, c'est pas la seule, mais une des richesses essentielles de ce pays, c'est la production agricole. Et elle part d'où ? Elle part en mer Noire, elle part de ces deux ports. Donc effectivement, ne plus contrôler ces ports, c'est très important. Maintenant, pourquoi c'est pas tout à fait vrai ? Parce que Mariupol est déjà quasiment détruite.
Je vous interromps, puisque voilà, c'est le jeu en ce premier jour de l'élection présidentielle, premier tour, avec en ce moment donc le vote d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste et qui vote bien évidemment à Paris. Je rappelle également qu'elle est maire de Paris, Anne Hidalgo, et qui, comme on l'a vu tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy, et comme 48,7 millions de Français, eh bien, va suivre cette procédure. Donc on choisit les bulletins, différents bulletins, pour des règles de confidentialité, bien sûr, et puis ensuite elle va s'apprêter à se rendre dans l'isoloir. C'est toujours particulier hein, de suivre ces moments-là pour ceux qui aiment le sport. Il y a quelque chose qui relève aussi un peu de l'attente du résultat quand on est supporter de telle ou telle équipe. Bien sûr qu'il y a un peu de fébrilité aussi. Guillaume Bigot.
Oui, c'est autant suspend ton vol. Il y a quelque chose qui n'existait pas et qui va exister tout à l'heure. Et on sait pas quoi. Les Grecs tentaient de regarder dans quel sens allaient les oiseaux. Enfin, ça donne lieu à toutes sortes de...
De prédictions un peu.
Oui, mais je pense que ça porte malheur d'être superstitieux, précisément. Voilà.
Voilà.
En fait, c'est le moment où il y a un petit peu d'espoir. Parce que au moment, dans la journée, il y a beaucoup d'espérance. Tous les Français qui s'intéressent à la politique, en tout cas les autres, c'est autre chose, ont un peu d'espoir. Le soir, l'espoir est soit transfiguré, soit déçu et apparaît comme une douche froide. Et donc là, c'est très particulier.
Il y a un fiat lux démocratique, oui. Mais ce qui rend peut-être cette élection plus particulière, c'est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote, on avait un peu cette impression irréelle qu'on n'était pas vraiment dans une ambiance de présidentielle. Mmh. Et là, forcément, nous y sommes, puisque les bureaux de vote ont ouvert. Donc, ça s'est un peu accéléré, il faut être honnête, ces derniers jours. Mais pendant très longtemps, il y a eu une espèce de suspension.
Alors, revenons-en à votre...
À l'Ukraine.
À l'Ukraine, précisément, où vous parliez de ces ports stratégiques que sont Mariupol et Odessa.
Et Odessa, exactement. Enfin, il y en a d'autres, mais ce sont deux principaux verrous. Alors, Mariupol, c'est notamment le débouché maritime du Donbass. Et donc, le Donbass, c'est plus large, finalement, que ces deux républiques autoproclamées que la Russie a reconnues avant d'entrer sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk. Mais grosso modo, ces deux territoires-là n'ont de viabilité, en quelque sorte, parce que c'est aussi des régions agricoles, que s'il y a une continuité territoriale avec le port de Mariupol. Par ailleurs, les Russes se sont étendus sur la côte jusqu'à Kherson. Donc, si vous voulez, c'est lorsque Zelensky dit il faut reprendre Mariupol, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, mais ça paraît quand même extrêmement compliqué vu que, numéro un, je pense que si, à minima, les Russes ne lâcheront jamais Donetsk et Luhansk, et donc ils ne lâcheront jamais Mariupol, parce que c'est le débouché, je répète, maritime de ces régions, du Donbass, hein, et parce qu'en plus, ils ont une continuité territoriale, on le voit, jusqu'à Kherson. Hein. Donc, en fait, leur objectif minimal, en quelque sorte, si Poutine devait se contenter d'une vision rétrécie, réduite de ses objectifs stratégiques, ce serait au minimum cette côte-là. Donc, je pense qu'il ne la lâchera pas. Et enfin, l'autre argument, c'est que Mariupol est, à l'heure qu'il est, un champ de ruines. En définitive.
C'est vraiment une ville martyre.
C'est une ville martyre. C'est une ville qui est... les Russes ont une sorte... Enfin, les armées, c'est assez difficile à comprendre, mais les armées ont une sorte d'effet mémoire qui est lié à des traditions militaires, ce qui fait que certains pays ont une tradition militaire, d'autres n'en ont pas. Et les traditions militaires sont marquées, c'est normal, par l'histoire militaire. L'histoire militaire de la Russie, ex-Union soviétique, c'est tout de même Stalingrad. Donc, il y a une appréhension très très forte de l'armée russe, qui s'est transmise de génération en génération, de ne pas s'engager dans des combats de rue. Ce qu'on a bien vu d'ailleurs en Syrie, parce qu'en Syrie, voilà, ils ont réduit en tas de cendres des villes, ils l'avaient déjà fait à Grozny, sinon c'est se battre rue par rue. Et alors, évidemment, c'est pas du tout pour défendre les Russes, mais lorsqu'on voit des immeubles, là on le voit à l'image, des immeubles complètement éventrés. De quoi s'agit-il? Parce qu'en fait, les troupes ukrainiennes, et on les comprend, elles se mettent dans les immeubles d'habitation, dans ces HLM, et elles ont des armes portatives, elles ont ces fameux javelines, ces stingers, etc., et elles tirent sur les chars russes. Et
elles ont une connaissance du terrain, évidemment.
Bien sûr, elles sont comme des poissons dans l'eau, comme dirait Mao Zedong. Donc, dans la guérilla, l'adversaire est comme un poisson dans l'eau. Mmh. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, une fois que ça tire depuis ces immeubles, la réponse, elle est foudroyante. Mortiers, obus, missiles, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ces immeubles d'habitation complètement réduits. Donc, à la fin, ils vont rentrer dans un champ de ruines. En fait, c'est ça qui va se produire.
Vous avez parlé de la Syrie. Et Marc Baudrier, c'est intéressant le parallèle avec la Syrie. D'autant qu'un ancien chef militaire qui a exercé, si je puis dire, sur le terrain de la Syrie, vient d'être nommé à la tête de l'armée russe, c'est quand même un grand remaniement alors qu'on est en pleine période de guerre au bout de quasiment 6 semaines. Qu'est-ce que ça dit de la stratégie de Vladimir Poutine qui se trouve contraint finalement de tout changer?
Oui, c'est un changement de pied. On le voit bien, c'est intéressant hein, parce que ça montre bien que l'offensive qu'on a vue, d'abord, n'a pas donné les fruits qu'il escomptait. Ça, c'est évident, parce que sinon, on ne change pas une équipe qui gagne et on ne change pas un général qui a gagné la bataille. Donc, il considère que ce n'est pas un vrai succès. Il y a évidemment derrière ce changement une modification de stratégie et sans doute aussi de la manière dont l'armée russe va aborder le terrain. Donc, on va assister à quelque chose d'autre. Et sans doute, les spécialistes s'accordent à dire qu'on va voir des opérations d'armée régulière. C'était déjà une guerre assez classique, hein, qui ressemblait à celle qu'on a vécue pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, ça va être encore plus ça, si vous voulez. Et donc, on nomme quelqu'un qui a l'habitude de la Syrie, et donc à la fois de ces grandes campagnes nationales dans lesquelles des troupes régulières avancent pour conquérir du terrain de manière extrêmement classique, et en même temps, des guerres de partisans ou dans lesquels il y a des bandes plus ou moins contrôlables qui luttent. Donc on pense à l'Afghanistan, à l'armée russe face à l'Afghanistan. Ils ont aussi cette expérience-là. Ils ont l'expérience syrienne, ils ont l'expérience de l'Afghanistan. Et ils nomment quelqu'un qui s'est précisément confronté à ce type de terrain. Ça dit beaucoup. Et on verra si ça change pour les Russes.
Et en tout cas, il y avait urgence à réorganiser aussi cette armée en vue de cet affrontement dans l'est du pays, alors que les Ukrainiens se préparent aussi.
Voilà, et repenser la stratégie.
Il est 9h moins le quart. Les principaux titres de l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
Le premier tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a maintenant 45 minutes. Près de 49 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 12 candidats en lice. Et Anne Hidalgo vient de glisser son bulletin dans l'urne quelques minutes après Nicolas Sarkozy. La candidate socialiste a voté dans le 15e arrondissement de Paris, l'ancien président de la République, dans le 16e arrondissement. L'homme soupçonné d'avoir placé un engin explosif dans la cathédrale de Toulouse a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les faits se sont déroulés vendredi matin. Il s'est introduit dans l'église avant de déposer un paquet au pied de l'autel. Le suspect a 47 ans et il a déjà été impliqué dans une affaire similaire il y a quelques semaines. L'Ukraine échange 26 prisonniers avec la Russie, annonce faite par la vice-première ministre ukrainienne hier. Parmi ces prisonniers, 12 soldats et 14 civils ukrainiens ont pu rentrer chez eux. Côté russe, le Kremlin indique que 14 marins russes retenus par l'armée ukrainienne ont été libérés. En rugby, les huitièmes de finale aller de la Coupe d'Europe et la large victoire de La Rochelle à Bordeaux. Ils se sont imposés 31-13. Les jaunes et noirs prennent une option sur la qualification. Et puis le Racing 92 s'est de nouveau imposé 22-9 sur le terrain du Stade français. Une victoire 6 jours après la claque infligée en top 14.
Merci Chana. Guillaume Bigot, un mot sur ce général Alexandre Dvornikov qui vient d'être nommé et qui donne le ton d'un changement de stratégie comme l'évoquait Marc Baudrier.
Oui, alors c'est un classique. De toute façon, quand en général, non seulement un plan de bataille ne résiste pas aux premières heures de l'engagement, mais très rapidement, dans une guerre, on change de commandement. Ça se voit dans quasiment toutes les guerres. Parce que les qualités qui font qu'on est promu en temps de paix sont généralement pas du tout les qualités qui font qu'on est promu en temps de guerre. Il y a l'épreuve du terrain. Deuxièmement, ce général, il est très soviétique, il est très russe. On dit de la Russie, maintenant les téléspectateurs le savent, pardon, c'est une armée qui a comme caractéristique d'être une artillerie roulante. Et on le voit bien, c'est-à-dire qu'elle se déplace, il s'arrête, il tire des missiles, il tire tout ce qu'ils peuvent. Enfin, vraiment, c'est de l'artillerie. Lui, il est complètement là-dedans. Enfin, c'est vraiment là où il s'est illustré. De 2000 à 2003, il a été en charge, il a été à la tête du district militaire du Caucase, traduction, la Tchétchénie. Voilà. Donc c'est lui qui a été chargé de raser au sol, notamment Grozny, etc. Bon. Ce qui compte dans la psychologie des Russes aujourd'hui, c'est de se dire, regardez, les Tchétchènes, ils nous ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Ils ont tué énormément de Russes. Ils étaient Russes, c'était un territoire de la Russie qui voulait faire sécession. Ils étaient extrêmement violents, extrêmement hostiles. Maintenant, ils nous obéissent au doigt et à l'œil. Donc, on va les mater à coups d'artillerie. Donc, on va raser au sol les villes qui résistent, etc. Donc, ça, c'est le message envoyé. Deuxièmement, il a été de 2015 à 2016 le patron de la force expéditionnaire russe en Syrie. Et là, même méthode, c'est-à-dire l'artillerie roulante, on détruit tout, etc. Avec une caractéristique quand même, c'est l'homme de la stratégie coup de poing. C'est-à-dire, je rentre, je détruis, je sors. L'idée, c'est pas de rester très longtemps. Effectivement, il y a aussi la mémoire de l'Afghanistan et des guérillas.
Et il a le titre de héros de la Fédération de Russie.
Oui, à l'issue de ces opérations, enfin du succès des opérations en Syrie.
Un mot concernant Boris Johnson, le spécialiste des surprises. C'était encore le cas hier à Kiev. Il est venu apporter un soutien moral, financier et militaire aussi au président Zelensky. Écoutez le chef du gouvernement britannique.
Ce que Poutine a fait à Boutcha, à Irpin, ces crimes de guerre qui ont été commis, ils ont porté un coup dévastateur à sa réputation et à la réputation de son gouvernement.
Si surprise que ça, cette visite de Boris Johnson, Guillaume Bigot ?
Non, bien sûr que non. Mais enfin, ça a été une surprise pour les commentateurs qui pensaient que le Brexit allait effacer la Grande-Bretagne de la surface du sol, qu'il y allait avoir des pluies de cricket, du sang dans la Tamise, que l'économie allait s'effondrer, que l'Angleterre ne compterait plus que pour du beurre. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on constate. En fait, il y a, bon, c'est pas le seul chef d'État européen à s'être rendu non plus à Kiev. Il y a eu je crois, le Premier ministre polonais, le Premier ministre tchèque, etc.
C'est le premier dirigeant du G7, en tout cas, à le faire, et ça arrive au lendemain de la visite de Ursula von der Leyen.
Exactement. C'est l'allié clé des Américains. On sait que l'OTAN est à la manœuvre dans cette affaire. Deuxièmement, c'est un membre du Conseil de sécurité, c'est aussi une puissance nucléaire. Enfin, c'est pas la visite de Madame von der Leyen qui était, au plus symbolique et arrivait vraiment, dans le sillage des États-Unis. Là, Boris Johnson, bien sûr, c'est l'allié clé des Américains, mais il a une voix, internationale qui pèse. C'est aussi un réseau d'alliances, de Commonwealth, etc. Enfin, ça représente beaucoup de choses, la Grande-Bretagne, finalement, tout de même. Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est que il y a quelque chose qui est peut-être assez inquiétant. J'ai entendu Régis Le Sommier qui s'exprimait sur notre antenne aussi.
Et qui sera avec nous dans
une minute. Qui est de retour de 7 jours en Ukraine, sur le terrain, sur le front. Et il a expliqué qu'en fait, il était parti avec des volontaires français qui voulaient combattre dans l'armée ukrainienne. Et je cite son expression qui est assez éclairante. « Je pensais être dans les brigades internationales, donc les brigades internationales de la guerre d'Espagne, donc des volontaires qui défendaient la liberté, et je suis arrivé au Pentagone. » Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il a dit que ces volontaires étaient immédiatement pris en charge par des officiers américains et que les officiers américains organisaient les opérations. Ce qui est intéressant, c'est qu'au plan du droit international, et ça, c'est peut-être un point, une source d'inquiétude au plan du droit international, le fait que dans une guerre, on organise, on planifie les opérations, ça fait de vous, non pas un co-belligérant, le terme est plus tout à fait utilisé, mais ça veut dire que vous êtes impliqué dans le conflit. Et là, ce qu'on pense, c'est que les Britanniques notamment, et d'où la présence de Johnson, et les Américains, pour éviter d'être en tant que tels des combattants, ont utilisé des sociétés privées. Et utilisent des sociétés privées qui sous-traitent en fait l'imagerie, qui est très importante, l'imagerie satellite, pour donner des informations aux Ukrainiens, mais aussi potentiellement l'entraînement, l'organisation des troupes, etc. Et qu'à un moment ou un autre, le commandement de ce qui se passe en Ukraine ne serait plus nécessairement en Ukraine, à la fois pour des raisons de sécurité et puis pour des raisons de niveau technologique aussi.
Marc Baudrier, il y a aussi la question de la politique intérieure pour beaucoup de chefs de gouvernement. Boris Johnson n'y coupe certainement pas. Il avait sérieusement intérêt à redorer son image.
C'est bye-bye le Partygate, là.
C'est bye-bye le Partygate, évidemment, le scandale de ces soirées organisées à Downing Street pendant les confinements.
Bien sûr, l'Ukraine a complètement balayé tout ça. Il est très fort, Boris Johnson. Et c'est vrai qu'on avait dit que le Brexit le mettrait complètement au banc de la société, qu'il ne pèserait plus rien, qu'on ne le verrait plus, qu'il allait gérer des crises et qu'il était promis à l'effondrement, etc. Au moment du Partygate, on a lu je ne sais combien de papiers qui sacrifiaient, pour ainsi dire, Boris Johnson, on voit bien que le fait qu'il soit seul, avec un puissant allié derrière lui, les États-Unis, eh bien, ça lui donne un rôle qu'il tient d'ailleurs de manière assez brillante sur le plan international. Et là, il le manifeste comme ça. Alors, c'est vrai que l'Ukraine, c'est peut-être un peu curieux de le constater, mais ça devient aussi un enjeu de politique intérieure, comme je vous l'avais dit, et puis aussi de brio et de surface à l'international. Quoi. Quand on va en Ukraine, d'abord, il y a un certain courage physique. Ensuite, l'opération est évidemment extrêmement médiatisée dans le monde entier. Et donc, ça fait briller le Royaume-Uni parce qu'il est sorti de l'Europe, plus que la France, parce qu'elle y est restée.
Voilà. Et on voit les personnalités, effectivement, se succéder désormais aux côtés du président Volodymyr Zelensky.
Merci. Il est sans gilet pare-balles, d'ailleurs.
Exactement.
Oui. Van der Leyen, sans gilet pare-balles. Oui. Ce qui est stupéfiant dans cette image aussi, c'est de voir un homme qui supplie l'Union européenne d'adhérer, finalement, que son pays adhère et fasse partie de l'Union européenne, et de l'autre, un homme qui s'est démené pour son pays sort de l'Union européenne.
Pour sortir de l'Union européenne, on n'est pas un paradoxe près. Ouais.
Voilà. Et alors, monsieur Zelensky se bat pour éviter d'être fait partie d'un club de pays qui est espèce d'Union soviétique ressuscitée, alors qu'il veut absolument rentrer dans un autre club de pays qui est dominé par les États-Unis. C'est assez étrange aussi.
Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end. Merci à vous, Marc Baudrier. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, vous allez retrouver Thierry Dagiral avec Frédéric Taddeï. C'est bien sûr une journée très particulière. Premier tour de l'élection présidentielle. Soirée spéciale à vivre conjointement sur nos antennes CNews et Europe 1. Vous retrouverez dès 17h Romain Desarbres, 19h Laurence Ferrari, 22h Sonia Mabrouk et à partir de minuit ce sera Julien Pasquet. Bon dimanche à vous et à tout de suite pour la suite de la matinale week-end.
Et merci Isabelle Moreau, bon dimanche à vous dans un instant. C'est arrivé demain, bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour Thierry Dagiral.
Alors pas de grand rendez-vous ce matin, on n'a pas le droit de parler politique. On va donc avoir le plaisir de vous écouter de 9h à 11h au programme ce matin Frédéric.
Au programme, tout le monde sait ce que c'est que la dérégulation de l'économie. Ghassan Salamé va nous expliquer ce qu'est la dérégulation de la force. Pour lui, c'est ce qui a permis l'invasion de l'Ukraine. Avec Laurent Beck-Chanclang, on va s'intéresser à l'évolution de nos rapports avec les animaux et avec l'historienne Natacha Henry et la peintre Rosa Bonheur. Et la deuxième heure, donc de 10h à 11h, eh bien, on va rendre hommage à Michel Legrand, dont les airs nous traitent encore à tous dans la tête.
A tout de suite sur Europe 1, Frédéric. À suivre le journal de 9h. Les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure maintenant. On sera à deux pas de Paris. Les candidats votent également. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1.